Bonsoir à tous. Une première à Caserres, la Pupe en vol, petite université populaire du Volvestre, fait une conférence. Pas mal d'entre vous connaissent. Nous nous retrouvons donc le quatrième mercredi du mois à Rieux, Carbone ou Montesquieu, pour différents sujets traités par un conférencier. Après 45 minutes de présentation, suivent 15 à 20 minutes d'échange. Tout se termine par une auberge espagnole où se poursuivent les discussions. Ce soir, étant une spéciale, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Conda, qui va nous faire partager le parcours des pionniers de l'aéropostale, son périple en Amérique du Sud. Nous pouvons aussi admirer ses œuvres de peintre collagiste. Découvrons ensemble. Je remercie l'OT Cœur de Garonne, M. Castres et la commune de Caserres pour leur participation. Bonne soirée à tous et à tout à l'heure. Je passe la parole à M. Gilles Vogel.
Bien, bonsoir. Martine a donné des informations concernant la pupe en vol. J'aimerais vous dire que la petite université populaire a pour but de diffuser la connaissance de façon gratuite. Donc vous pouvez venir ou les gens peuvent venir gratuitement, ils peuvent aussi adhérer. Et l'adhésion est extrêmement chère, elle revient à 15 euros par an, et pour une personne et à 20 euros pour un couple. C'est tout à fait possible, les formulaires sont là, et de plus, l'adhésion peut être défiscalisée, puisque l'association est donnée d'intérêt général. Comment ? Exactement, exactement. Ça va bientôt être un paradis fiscal, la pupe en vol. Ceci étant dit, la prochaine conférence aura lieu à Rieux. Elle aura lieu, le 22 novembre à 20h à la salle du plan d'eau, et elle portera sur une conférence sur les briques foraines. Donc ça aussi c'est régional et ça peut être très intéressant. Au mois de janvier, ce sont les deux conférences que je vous donne, au mois de janvier, à la salle polyvalente de Montesquieu, il y aura une conférence qui n'est pas, elle, régionale, qui portera sur la démocratie athénienne et qui sera faite par Françoise Vallon. Comment ? Le 24 janvier, pardon, 24 janvier à 20h, c'est toujours à 20h. Je vais passer la pierre à Conda, mais avant ça, je voudrais dire que c'est quelqu'un qui aime énormément l'aviation, quelqu'un qui aussi connaît très bien les Pyrénées, c'est un amoureux de la montagne et de la musique classique, mais je crois que montagnard moi-même ou aimant la montagne, je n'essayerai pas de le suivre. C'est une véritable chèvre en montagne. Il va très loin, très haut, très vite. Ces créations sont visibles sur différentes expositions. Et puis, ce que je voudrais citer, c'est que le week-end prochain, Jean-Pierre Conda est à la Cité de l'Espace. Il sera aussi à l'affiche du musée Aéroscopia et il participe au projet La Piste des Géants à Montaudran, qui ouvrira dans un an pour le centenaire de l'aéropostale Latécoère. Voilà, je vais lui laisser la parole et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.
Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus si nombreux. Alors aujourd'hui, c'est une première parce que je crois que pour l'association Pupe en vol, c'est la première fois qu'on fait une manifestation à Caserres. Et pour ma part, c'est la première fois que je participe à l'animation de cette association. Donc je suis très heureux d'être ici. Je voudrais saluer la présence d'Eugène Bellet, Alors Eugène Belay, il est dans l'assistance. Là, c'est un grand timide qui s'est mis au fond pour pas que je le voie, mais je l'ai quand même repéré. Et ce monsieur est un passionné d'aviation. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés. C'est par ça qu'on est devenus amis. Et il est l'auteur, avec toute une équipe, de la construction du Breguet 14. Alors, je vais vous parler de l'aéropostale, mais vous allez comprendre que le Breguet 14, c'est l'avion emblématique des lignes Latéco Air qui sont par la suite devenues l'aéropostale. Alors, vous allez voir beaucoup d'images tout à l'heure qui vont lier à la fois le domaine artistique, puisque vous allez voir certains de mes tableaux, qui vont réunir également la passion que j'ai pour la montagne et pour l'aéropostale et l'aviation. Donc tout ça est mélangé. Et tout ça a été possible grâce à une association dont je suis membre, qui s'appelle la Ligne Bleue, qui s'intéresse à l'histoire du courrier entre la France et l'Amérique du Sud. Voilà. Alors, grâce à cette association et avec le soutien de collectivités territoriales, nous avons réussi à mener des actions pour lesquelles je suis assez fier d'avoir trouvé une originalité. Et vous allez le découvrir dans les minutes qui suivent. Voilà. Pour vous dire autre chose, donc je vais vous amener en Amérique du Sud. J'ai effectué là-bas plusieurs voyages et l'un des premiers m'a amené à la Aconcagua, alors pas au sommet, mais simplement au camp de base, où j'ai découvert qu'il y avait un bureau de poste. Et renseignement pris, ce bureau de poste, c'est le plus haut bureau de poste du monde. Dans l'Himalaya, il n'y a pas de bureau de poste à ces altitudes-là, même si les montagnes sont plus hautes. Et donc l'idée m'est venue de faire une exposition là-bas, et c'est un des éléments que vous allez découvrir. Alors je vais arrêter mon discours pour le reprendre, mais avec les images. Alors si la technique veut bien m'assister, parce que oui, je ne suis pas technicien, je suis montagnard, j'ai peut-être plusieurs cordes à mon arc, mais pas celle-là. Alors, le mieux c'est que je me mette par là peut-être. Ah oui, une suggestion, votre portable, vous pouvez le mettre sur mode avion. Je crois que c'est tout indiqué pour ce soir. Ouais, je l'ai bien ciblé, je l'ai bien placé là, c'est pas mal. Alors, je vais... Alors, comme le grand âge me guette, il faut que je prenne mes lunettes.
C'est bon.
Non, si tout va bien. Alors, est-ce que si je me mets là, je gêne beaucoup de gens ou pas? Il faut me dire, hein, sinon je me décale. Ça va là? Oui, ils n'osent pas le dire. Donc on commence avec un tableau qui s'intitule l'aéropostale, c'est très étrange. Et vous voyez là un avion qui s'appelle le Potez 25. C'est un avion qui a été utilisé pour franchir les sommets de la cordillère des Andes pour acheminer le courrier Argentine et le Chili. Alors, puisque je vous parle de l'aéropostale, il faut que je vous montre quand même cette carte qui explique un petit peu les choses. Cette ligne, imaginée par Pierre-Georges Latécoère dès 1918, était une ligne imaginée qui partait de Toulouse pour aller jusqu'à Santiago du Chili. Alors, en gros, ça fait, donc vous voyez la France ici, l'Espagne, donc la ligne partait de Toulouse, passait les Pyrénées, longer la côte espagnole, arriver sur le territoire africain, donc là c'est le Maroc, ensuite vous avez la Mauritanie, le Sénégal, et puis il fallait traverser l'Atlantique sud, arriver au Brésil, longer toute la côte brésilienne, arriver en Uruguay, et de là en Argentine, et d'Argentine traverser la cordillère des Andes pour arriver à Santiago du Chili. En gros, ça fait 13 000 kilomètres, voilà. Alors cette idée, évidemment, en 1918, c'était complètement farfelu. Latécoère lui-même en était très conscient. Il a eu cette phrase célèbre en disant « Cette idée est irréalisable, il ne reste qu'une chose à faire, la réaliser. » Alors il a mis quelques années quand même, mais il y est arrivé. Alors donc, je vais franchir l'Atlantique Sud avec vous. Alors pas sur le Laté-28 que vous voyez là. Pourquoi j'ai mis cette photo? Parce que c'est une photo d'un de mes tableaux, mais on voit le Laté-28, c'est le premier avion avec lequel on a réussi à faire une traversée commerciale, c'est-à-dire avec du fret, pas simplement pour faire un record, avec du courrier, donc sur l'Atlantique Sud, et aux commandes, eh bien, il y avait un certain Jean Mermoz. Voilà. Et le bateau qui est là, c'était un bateau relais pour le suivi de l'évolution du raid. Par la suite, l'Atlantique Sud, on l'a franchissait avec ce gros hydravion, le Laté 300, qu'on a appelé Croix du Sud. La Croix du Sud étant une constellation d'étoiles que l'on voit uniquement dans l'hémisphère sud. Et cet avion est emblématique parce que malheureusement, c'est l'avion qui est devenu le linceul de Mermoz et de son équipage en 1936. Mais moi, j'ai franchi l'Atlantique Sud avec un avion beaucoup plus moderne et beaucoup plus sûr, surtout. Je suis arrivé là-bas, donc voilà le drapeau argentin. Et puis, pour que vous compreniez mieux, voilà une carte qui vous situe. Buenos Aires, qui est la capitale argentine, comme vous savez, qui est au fond du Rio de la Plata, qui est partagé entre l'Argentine et l'Uruguay, qui est un petit pays tampon entre le Brésil et l'Argentine. Alors, quelques mots quand même sur Buenos Aires. Vous avez ici la statue du général San Martin. Cette statue, elle est un petit peu dans toutes les places publiques des grandes villes d'Argentine. C'est le libérateur. Et puis, autre élément important, eh bien, la Casa Rosada, c'est-à-dire c'est le siège du gouvernement, l'équivalent de notre palais de l'Élysée à nous, voilà pour l'Argentine et Buenos Aires. Et puis, autre élément important, voilà un bâtiment encore peut-être plus important que le siège du gouvernement, c'est la poste centrale. Imaginez Pierre-Georges Latécoère, l'inventeur de la poste aérienne qui, lors d'un voyage en Amérique du Sud, découvre l'ampleur de ce bâtiment. Et donc là, il voit très bien qu'il y a des affaires à réaliser et que ce bâtiment-là n'est pas là pour rien. Alors, il va créer cette ligne qui sera reprise ensuite par Marcel Boulud-Lafont et qui deviendra l'aéropostale. Voilà le siège de l'aéropostale à Buenos Aires dans les années 30. Et voilà le bâtiment actuel. Il existe toujours, évidemment, il n'y a plus l'aéropostale, c'est un magasin. Mais le bâtiment, dans sa structure, n'a pas fondamentalement évolué. Alors, nous, on est là pour l'aéropostale et en fait, Buenos Aires n'est qu'une escale. Ce qui nous intéresse, c'est de monter dans la cordillère des Andes. Donc, il va nous falloir quitter Buenos Aires pour, alors voilà les avions de l'époque, toujours, je vous mets ça pour eux, pour arriver ensuite à Mendoza. Alors, voilà la traversée ici. En gros, il y a 1000 km entre Buenos Aires et Mendoza. Donc, vous prenez des bus, vous passez toute la nuit. Et vous arrivez à Mendoza, et voilà le siège du courrier argentin à Mendoza. On y est allé pour faire état de notre projet d'exposition au plus haut bureau de poste du monde. Et puis nous voilà dans les montagnes. Alors, pour vous expliquer les choses, la route que vous voyez qui serpente, c'est une route qui monte au col du Christ Rédempteur. Le col du Christ Rédempteur est sur la frontière entre l'Argentine et le Chili. Et maintenant, on l'utilise peu, seulement les touristes y passent parce qu'il y a un tunnel qui a été creusé, un peu comme le Puy Morens ici. Voilà ce col du Christ Rédempteur. Pourquoi je vous le montre? Eh bien, parce que c'était un point de repère pour les aviateurs. Les dénommés Mermoz parlent de ce point. Ils voyaient cette statue monumentale et donc ils savaient où ils étaient, ils pouvaient se repérer. Et de là, une fois qu'ils avaient atteint ce col qui est quand même à 3800 mètres d'altitude, ils pouvaient basculer de l'autre côté. Alors aujourd'hui, c'est parcouru par les nombreux touristes qui arrivent avec des minibus. Alors c'est surtout les Argentins qui montent, les Chiliens, ça ne les intéresse pas trop. Et voilà un panneau explicatif. Cette statue a été érigée donc en 1904, et donc pour une paix durable, disent-ils. Elle fait quand même 12 mètres de haut et 3,6 tonnes au niveau de son poids. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que Mermoz est passé par là, avec cet avion qui n'était pas du tout adapté, qui avait un plafond qui était pratiquement identique à l'altitude du col, mais il a réussi son coup. Il avait même écrit un rapport à ses patrons en disant qu'il était passé non sans difficulté. Dans la bouche de Mermoz, ça voulait tout dire. Par la suite, on a trouvé un avion mieux adapté, c'est le Potez 25 qui est ici. Pourquoi? Eh bien parce que lui, il avait un plafond de 6000 mètres, donc c'était un peu plus aisé de passer là, même si ce n'était pas une partie de plaisir. Parce que vous comprenez que les gens étaient à l'air libre dans la cabine de cet avion. Donc voilà le col. Et alors ce qui est intéressant au col, quand on y est passé, c'est qu'on a regardé sur notre droite et on a vu la Aconcagua avec cette magnifique soucoupe volante. Alors en fait, les aviateurs, ils savent ce que c'est. C'est un nuage lenticulaire, ce qui veut dire qu'il y a des pompes à chaleur. Quand on ne pouvait pas passer au col, Mermoz, quand les conditions étaient mauvaises, Mermoz disait ben, on va prendre l'ascenseur. C'est-à-dire qu'il allait utiliser les courants ascendants pour pouvoir propulser l'avion et passer de l'autre côté, ce qui était quand même plutôt risqué. Alors ce nuage lenticulaire, il est énorme. On s'est empressé de prendre des photos et en fait, il est resté toute la matinée en place. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des courants assez forts dans la zone. Alors voilà un tableau que j'ai fait qui représente la Concagua et les avions de l'époque. Et si on y ajoute du texte, eh bien ça devient l'affiche pour l'exposition. Et donc, évidemment, elle aura lieu au plus haut bureau de poste du monde, comme c'est indiqué ici, c'est-à-dire à 4370 mètres d'altitude. Donc, il faut quand même y monter. Alors, et donc, c'était en janvier 2009. Alors, en janvier, pour nous, c'est l'hiver, mais pour eux, comme c'est l'hémisphère sud, les saisons étant inversées, c'est l'été. Voilà une carte qui vous explique un peu ce qu'on va faire. Par la route, on va arriver jusqu'à Puente del Inca. Et de là, après, on va prendre un chemin qui va nous amener jusqu'à Confluencia, qui va être une étape intermédiaire à 3400 mètres d'altitude environ, où on va y passer une nuit ou deux pour s'acclimater, et ensuite monter à Plaza de Mulas, c'est-à-dire notre destination avec l'exposition. Alors voilà, Puente del Inca, vous avez le train, le Transandin, qui y passait, il n'y passe plus maintenant. Il y a eu des éboulements, le terrain a beaucoup souffert. Et on est au bord du Horcones, du rio Horcones, le voici, le rio Horcones, avec des établissements thermaux qui étaient en train d'être remis en état. Alors là, c'est une zone qui est très souffrée. Alors vous voyez le torrent qui est quand même assez impétueux. Et ce qui est extraordinaire là, dans cette petite localité de Puente del Inca, ben, c'est qu'il y a un bureau de poste, le dernier bureau de poste qui est vraiment accessible en voiture. Et non seulement il y a un bureau de poste, mais il y a en plus, alors là, vous voyez, je suis avec mon copain, on est en train de déposer les affiches, et à l'intérieur, on a découvert qu'il y avait un véritable petit musée postal, alors tout à fait modeste, mais très sympathique, et qui montre un certain nombre d'équipements utilisés. Alors, bon, j'ai sympathisé avec la dame qui tenait le bureau de poste. Je lui ai remis une affiche, voilà. Et puis, on va traverser la route pour aller vers notre destination. Alors, on a été amené jusque-là par un taxi. Et là, on rencontre les gardes parce que la zone de la Concagua est dans un parc national. Donc là, il faut montrer patte blanche. Il faut avoir un grand sourire. On leur a distribué une affiche également. Et là, on est au bureau d'enregistrement. Et alors, quand vous entrez dans cette zone, on vous donne des sacs poubelles, parce que vous allez évoluer et vous allez revenir. Et quand vous revenez, il faut que les sacs poubelles soient remplis. Sinon, on vous fait payer des taxes. C'est normal, hein, ils ont raison de préserver leur patrimoine. Voilà. Bon, donc, on va partir. Et voilà, d'entrée de jeu, on découvre la Concagua. Alors, la Concagua, c'est cette masse blanche, là. Hein. Donc, ça culmine à 6962 mètres d'altitude, quand même. Donc, c'est le toit des Amériques. Et on va évoluer, on va s'en rapprocher. Notre destination, c'est Confluencia, qui est donc, comme son nom l'indique, au confluent de deux rivières. Et on est dans un univers minéral déjà assez prononcé. Voilà le camp intermédiaire de Confluencia, qui est à 3400 mètres d'altitude. Donc en gros, c'est l'altitude de l'Aneto, qui est le point culminant des Pyrénées, comme vous savez. Et dominé par le Cerro Almacenes, qui est un 5000 au-dessus ici. Voilà à quoi ressemble cette montagne majestueuse, toute striée. Et puis, alors le soir, il y a des couleurs plus intéressantes encore, vous le voyez. On a même eu une petite tempête, mais bon, je vous fais grâce des détails. Et ça, c'est le Cerro Torosa. Il y a un pic là-bas, enfin un sommet, qui porte le nom de notre capitale de région. Le lendemain matin, enfin le surlendemain en fait, on est reparti. Et voilà, là, il nous reste 1000 mètres de dénivelé à faire pour passer de 3004 à 4004 pratiquement. Et il y a un long faux plat de plusieurs kilomètres. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Les gauchos, eux, ils transportent les gros bagages. Et notre exposition a été transportée par les mules. Ce n'est pas nous qui l'avons portée, là. Le plus dur pour transporter l'exposition, c'est dans les couloirs du métro à Paris, pour moi. Parce que là, je n'avais pas de mules. Voilà. Ah oui. Bon, bref, nous avançons et nous arrivons enfin à notre destination. Voilà le refuge de Plaza de Mulas, tel que nous l'avons découvert. Alors, il ne faisait pas très beau. On est à 4370 mètres d'altitude. Et ce refuge accueille environ 7000 personnes tous les étés, pour la plupart des candidats à la conquête de la Concagua. Bon, heureusement, il y a des jours où il fait meilleur. Et vous remarquerez qu'il y a le logo de la poste officielle argentine qui est posé ici. Alors tous les matins, on y restait 5 jours quand même. Tous les matins, j'avais ce spectacle. Il y a des concrétions comme ça, de glace. Et dominé par le Cuerno. Le Cuerno, c'est cette montagne-là qui est un 5000. Ce qui est un sommet relativement modeste pour la zone. Voilà. Nous, on est allé faire celui-là qui est le Cielo Bonette, ce qui est un 5000 aussi, histoire de se dégourdir les jambes. Parce que quand je suis arrivé, Eduardo, le gardien du refuge, n'était pas là, il était à la Concagua. Donc on a patienté 2 jours qu'il revienne. Là, c'est des amis avec lesquels on a sympathisé qui, eux, ont tenté la Concagua mais ne l'ont pas réussi. Et voilà, ce fut son logo. Voilà. Et à l'intérieur, eh bien, on va s'activer pour mettre en place cette exposition. Alors, on a fait avec les moyens du bord, parce que, évidemment, vous imaginez bien qu'on n'avait pas des cimaises comme dans les galeries toulousaines ou parisiennes. Donc ça, c'est un des membres de l'équipe du refuge qui nous a donné un coup de main. Avec mes amis, on est en train de mettre les panneaux, donc des petits kakémonos, qui racontent donc l'histoire du courrier entre la France et l'Amérique du Sud, et notamment l'Argentine, bien sûr. Et quand tout a été en place, eh bien, on était bien contents. Et on a réussi à faire un petit vernissage. Alors là, c'est une photo où il y a mes deux amis, Jean-Claude qui est à droite et Pascal qui est à gauche en noir. Et Kiri le clown au milieu, c'est le gardien du refuge. Voilà l'exposition qui parle de Pierre-Georges Latécoère, de Saint-Exupéry, de tous les pilotes, avec des plis qui ont été des petites merveilles pour les aérophilatélistes. Et puis évidemment, puisque c'est un vernissage, ben ça s'est fait au Cabernet Sauvignon, voilà. Et oui, on ne s'est rien refusé. Voilà, toute l'équipe du refuge m'a entouré avec le gardien. Et on a fait ce vernissage quand même avec... bon, vous voyez, on lève le coude, bien sûr. Eh bien, il faut être un peu... Il faut faire attention parce qu'il ne faut pas trop en boire. À l'altitude, là, c'est vrai que ce n'est pas très indiqué. Alors, c'est un vernissage qui a été international. Il y avait des Français, des Luxembourgeois, des Espagnols, des Argentins. Et alors, on a fait ça de façon trilingue. C'est-à-dire que moi, je parlais en français, je traduisais en anglais et Eduardo traduisait en espagnol pour que tout le monde ait une chance de comprendre ce qui se passait. Voilà. Bon, mais ça a été vraiment très sympathique. Mais au même moment, le président de mon association, Jean-Luc Gouzy, que vous voyez ici, présentait la même exposition au bureau de poste de Toulouse, qui est donc l'autre extrémité de la ligne, pratiquement. Et on a fait ça avec seulement 4 heures de décalage horaire. Donc on était quand même pas trop mal au niveau synchronisation. Et évidemment, les autorités étaient là. Il y avait l'Amérique était représentée, l'armée de l'air, des amis, des passionnés, etc. Mais cette simultanéité avait quand même été un grand moment puisque j'avais réussi à envoyer des messages à mon président qui a lu ce qui se passait en Argentine au même moment, pratiquement. Voilà. Alors évidemment, de là-haut, on a pu envoyer 175 plis. Donc voilà, vous voyez l'ambiance du refuge. Hein. Toutes les expéditions qui passent ont à cœur de laisser leurs traces. Alors des fois c'est un autocollant, ce qui est relativement discret, mais quelquefois c'est plus important. Et voilà les plis qui ont été envoyés. Donc ce sont des enveloppes qui ont été éditées par la Poste française, qui était en partenariat avec nous. Et donc elles ont bien le tampon, le cachet de ce refuge qui est ici. Voilà. Et puis la date du 23 enero, c'est-à-dire janvier 2009. Donc il y a eu 175 privilégiés, dont moi, vous voyez, ça c'est mon nom, hein, vous avez reconnu. Je me suis envoyé une lettre. Bah, elle est arrivée, c'est bien, voilà. Donc il a fallu donner plusieurs coups de tampon. Alors c'est pas des tampons automatiques, c'est des trucs où on se crève la paume des mains à enfoncer ce tampon, mais enfin, ça marche. Voilà. Et puis bon, voilà la boîte aux lettres symbolique de ce refuge. Alors en fait, les gens y mettent l'enveloppe là, mais après, le courrier, lui, il est distribué grâce aux mules. C'est-à-dire qu'il est mis dans des paquets, là, vous les voyez, et c'est les mules qui descendent jusqu'à la route en 2 jours pour acheminer le courrier. Après, il prend un trajet traditionnel, on va dire. Voilà. Et le soir, évidemment, on avait à cœur d'expliquer ce qu'était l'aéropostale, ce qu'était cette fabuleuse aventure humaine aux gens du refuge, parce que c'est aussi leur patrimoine. Voilà l'ambiance le soir. Il faut savoir que la ligne officielle, elle passait à quelques encablures de ce refuge. Bon, voilà. Alors, je vais vous mettre des photos quand même. Voilà l'ambiance générale. Donc, le refuge, c'est le gros bâtiment. Le petit blanc, c'est les gendarmes, le secours en montagne, en fait. Et puis, ben, la Aconcagua, il est tellement imposant qu'on ne peut pas arriver à le saisir sur le même cliché, quoi. Mais quand même, le soir, ça prend des teintes assez sublimes. Voilà. Et donc, on a eu droit à un coucher de soleil sur la Aconcagua. C'est pas désagréable. Bon, les couleurs sont plus vives que ça. Là, comme on est dans une relative pénombre, on ne voit pas tout. Mais voilà. J'espère que ça vous fait rêver. Alors, vous voyez, le Breguet 14, pas le Breguet 14, le Potez 25, vous voyez ici, c'est l'avion emblématique de la Cordillère des Andes. Parce qu'en fait, celui-là a cheminé le courrier. Et un des pilotes qui s'est largement illustré là-dedans, c'est Guillaume. Alors, on va le retrouver, Guillaume. Là, comme on a passé quelques jours autour de la Aconcagua, on a fait des balades. Ça, c'est la Aconcagua, toujours vue sous un autre angle. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est cette forme-là. Moi, quand je l'ai vue, ça m'a rappelé un tableau de Paul Langelais. Le tableau, le voici. Alors, ça, c'est un tableau qui est assez connu des gens qui s'intéressent à l'aviation. Et je dis, Paul Langelais, je ne sais pas s'il est monté, s'il est venu dans la zone, mais en tout cas, il avait des informations très précises parce qu'on ne peut pas inventer une forme comme ça. Effectivement, elle est très juste. Et là, vous voyez l'avion avec lequel Guillaume a connu une expérience assez, assez folle. Il a failli y perdre la vie, d'ailleurs. Et on va se pencher un petit peu là-dessus. Alors, voilà Guillaume aux commandes de sa machine. Et lui, il lui est arrivé une histoire. Il faisait la liaison entre les deux pays, et donc il fallait qu'il traverse la Cordillère des Andes, par tous les temps, parce qu'on écrit tous les jours, disait Didier Dora, qui était son patron, d'une certaine façon, et donc il faut que tous les jours le courrier passe. Et un jour, ben, il a eu vraiment un temps exécrable, il n'a pas pu passer, et il a été obligé, dans un univers tel que celui-là, mais en hiver, c'est-à-dire avec beaucoup plus de neige que vous n'en voyez là, il a été obligé de tenter un atterrissage pour poser donc son avion. Et il s'est retrouvé au pied de la Laguna Diamante. Alors la Laguna Diamante, la voici le soir, elle est dominée par le Maipú. Le Maipú, c'est ce volcan qui est la montagne que vous apercevez, sur la droite. Et le lendemain matin, mais voilà, les couleurs changent, ça donne ça. Et c'est assez sublime. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé à Guillaume ? Ben, il a tenté un atterrissage, mais ça s'est bien passé relativement, sauf qu'au dernier moment, l'avion a capoté. Alors lui, il était indemne, mais l'avion, il ne pouvait pas repartir avec, évidemment. Il a fallu qu'il marche pendant 4 jours et 4 nuits, quelque chose comme ça, pour s'en sortir. Les équipes qui se sont relayées pour le trouver n'ont pas réussi à le localiser. Et donc, il n'a dû son salut qu'à lui-même. Alors, cette histoire, on a dû vous en parler, parce qu'en fait, elle a été assez célèbre. Il y a un réalisateur qui s'appelle Jean-Jacques Hanot, qui est dans les feux de l'actualité en ce moment, mais pour d'autres raisons. Et Jean-Jacques Hanot a fait un film en 3D qui raconte l'histoire de Guillaume, qui s'est donc crashé sur la Laguna Diamante. Et donc l'endroit précis du crash, c'est l'endroit où est le personnage que vous voyez. Donc il s'est vraiment posé en bordure de cette magnifique lagune. Et voilà ce que donne le paysage alentour. Alors évidemment, imaginez quand il est arrivé là, avec toute la neige qu'il y avait, puisque c'était en hiver pour eux, c'était au mois de juin, et il a eu du mal à s'en sortir. Voilà une illustration qui montre le Maipú, la Laguna Diamante et l'avion sur lequel il était. À la fonte des neiges, une équipe est remontée pour récupérer l'avion. Donc vous voyez, ça c'est des documents d'époque. L'avion a été retourné. Il a été démonté et il a été acheminé dans la vallée. Et là, il a connu une sérieuse révision et il a pu revoler par la suite. Voilà. Alors, à l'endroit du crash, enfin, pas vraiment à l'endroit, ils ont fait un monument et ils ont mis cette plaque. Donc, c'est écrit en espagnol et en français, qui rend hommage au courage de Guillaume. Donc, c'était le 13 janvier 1930. Si vous allez au Futuroscope, vous pourrez voir le film de Jean-Jacques Hanot et vous verrez une illustration vibrante de cette affaire. Alors le paysage est somptueux, comme vous pouvez le voir. Et voilà ce monument. Alors il ne paye pas de mine. Il est d'une allure discutable, mais bon, il existe et c'est déjà pas si mal. Voilà. Voilà l'hommage à Guillaumet qu'on a rendu. Alors, dans les gens qui l'ont cherché, il y a eu Pierre Delay, qui est un pilote de la ligne également, qui l'a cherché. Pierre Delay est originaire de Marseille dans le 34. Et puis, il y a eu aussi Saint-Exupéry, qui l'a également cherché. Mais bon, ils ont été des recherches qui ont été sans succès. Mais bon, il a réussi à s'en sortir. Et Guillaumet, quand il a retrouvé Saint-Exupéry, il a fondu en larmes et il célèbre ce que j'ai fait, je te le jure, aucune bête ne l'aurait fait. Il voulait dire par là que c'est son courage d'homme et, le fait qu'il pensait aussi à sa femme qui lui a donné le courage donc de se sortir de ce mauvais pas. Une autre expérience qu'on va avoir, eh bien, c'est au Chili. Alors, voilà le drapeau chilien. Au Chili, je vais vous montrer voilà le siège du gouvernement au Chili et la relève de la garde. Et à côté de ce monument, il y a le ministère de la Justice et devant le ministère de la Justice, il y a la statue de Salvador Allende. Eux, ils parlent aussi du 11 septembre, mais ce n'est pas le même que celui que nous avons en tête. Et voilà la poste centrale de Santiago. Donc, c'est l'extrémité de la ligne. Hein. On a eu Toulouse, ben voilà Santiago. Alors, c'est un bâtiment qui est tout à fait sympathique, beaucoup plus modeste que celui de Buenos Aires, à l'intérieur duquel se trouve également une cour intérieure, la voici, qui est utilisée pour les besoins du service. Et il y a également un musée postal, alors plus important que celui de Puente del Inca quand même. Bon, et donc un lieu évidemment que nous avons visité et que vous avez donc sous les yeux là. Et c'est gratuit. Voilà. Et après ça, nous allons changer de lieu. Alors voilà la poste centrale, hein, sous un autre angle. Bâtiment plus modeste mais plus joli à mon goût que celui de Buenos Aires. Et là, on va reprendre la ligne et on va aller un peu plus au nord. On va, puisqu'on était à Santiago, on va partir et on va aller du côté de Copiapó. Pourquoi ? Eh bien parce que Copiapó, on a voulu aller sur les traces d'un crash qui a eu lieu en 1929. C'était Mermoz qui était aux commandes. Et voilà la ville de Copiapó, qui est une ville minière. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Mermoz a profité de la présence de son mécanicien, avec lequel il faisait équipe, mais aussi il avait à disposition la T-25. Et le voici, ce la T-25. Et avec cet avion, il a voulu faire une mission d'exploration. Qu'est-ce qu'il voulait ? Eh bien, c'était repérer les points de passage les plus bas, les plus sécurisés, entre guillemets, pour acheminer le courrier entre l'Argentine et le Chili. Alors il est parti avec ça. Malheureusement, dans une zone très désertique, que voici. Et il s'est retrouvé sur un plateau, vous voyez, à plus de 4000 mètres d'altitude. Là, il a eu des vents assez violents. Il a eu du mal à passer. Il a utilisé l'ascenseur, comme il disait, c'est-à-dire les courants ascendants. Mais de l'autre côté, évidemment, il y avait des courants rabattants, ce qui fait que l'avion, ben, il s'est posé, mais avec une grande violence, et donc il a un peu cassé du bois. Résultat des courses, il s'est retrouvé prisonnier des Andes avec son mécanicien et il a vite vu qu'il ne pouvait pas s'en sortir facilement et en marchant, en allant je ne sais où. Donc il a dit qu'il faut réparer. Et donc nous, on voulait savoir où était cet endroit exact où il avait connu cette aventure. Donc on est allé dans le parc national de Los Tres Cruces où il y a heureusement des gardes qui nous ont hébergés. On y a passé 5 jours quand même. On était à plus de 4000 mètres d'altitude. Voilà, ça c'est notre taxi. Et dans un endroit très désertique. Et nous, ce qu'on voulait, donc, c'était trouver précisément l'endroit où avait eu lieu ce crash, en se basant sur le rapport de Mermoz, puisqu'on l'avait en notre possession, puisqu'on avait eu accès aux archives de Madame Latécoère, qui nous avait donc livré. On avait une carte d'état-major de l'armée. On était assez convaincus qu'il fallait trouver quelque chose. Et donc dans cet univers assez désolé, dominé par le Copiapó à Soufré, qui est une montagne qui dépasse les 5000 mètres, eh bien on a cherché l'endroit où ça pouvait se faire. Alors on est dans un paysage complètement fantastique, avec des vigognes, là, sur les animaux que vous avez sous les yeux. Et puis on a cherché l'endroit exact où on s'est baladé, et tous les soirs on revenait dormir avec les gardes dans le refuge que vous avez aperçu tout à l'heure. Alors, on avait aussi en tête des images qui n'étaient pas tout à fait justes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était sur un plan incliné et on pense qu'ils ont été amenés à réparer l'avion et à le remonter le plus possible pour bénéficier de suffisamment de distance pour pouvoir faire décoller l'avion. Alors, dans les bandes dessinées, ça donne ça, voyez. Et pour repartir, voilà comment on explique qu'ils ont décollé parce que le terrain était accidenté et qu'il y avait des précipices à franchir. Alors, on s'est dit quand même, c'est un peu olé olé. Hein. Voilà l'affaire telle qu'elle est relatée par les gens qui font des bandes dessinées aujourd'hui. Nous, vous voyez, donc c'est quand même sport. Hein. Bon, c'est un petit peu fantaisiste. Bon, on s'est dit, c'est pas possible. Alors, on a regardé le rapport de Vermont. Alors là, on voit quand même que c'est pas rien, mais en fait, le relief n'est quand même pas aussi accidenté que dans les dessins. Et nous, l'endroit qu'on a trouvé, alors ça c'est le rapport entier de Mermoz, voilà. Et voilà Mermoz et Colneau, et l'avion avec lequel ils ont eu cette aventure. Et l'endroit auquel on est parvenu, ben, ça ne collait pas tout à fait avec les images qu'on avait dans la tête. Quoi. Vous voyez, c'est désertique, certes, c'est en altitude, il y a de la pente, mes amis sont en train de chercher, on était trois. Hein. Moi j'étais surtout là pour surveiller la météo, et eux pour chercher. On était quand même bien équipés parce que là-haut, il ne fait pas si chaud que ça. Et voilà l'endroit où ça se serait passé, donc sur ce plan incliné. Alors ça nous a un peu déçus parce qu'on imaginait quelque chose d'encore plus accidenté. Et en fait, on en a parlé aux gardes. Et ils nous ont dit, mais votre aventure, c'était il y a 80 ans. Et oui, effectivement. Et donc nous, on a trouvé des petites rigoles, mais on n'a pas trouvé des précipices. Ils nous disent, venez avec nous, on va vous montrer quelque chose. On est parti avec eux. On a fait 5-6 kilomètres. Et on a trouvé une barque ensablée. Ils nous ont dit, là, vous voyez, il y avait une lagune. Et votre cours d'eau que vous avez en tête, ben, il s'est comblé petit à petit, pas par l'effet de l'homme, mais par l'érosion naturelle. Et ce qu'a connu Mermoz était sans doute plus accidenté que ce que vous voyez aujourd'hui. Mais ce que vous avez trouvé est plausible à nos yeux. Quoi. Donc voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont réussi à réparer. Ils ont réussi à décoller. Et parce qu'il faisait très froid, donc il y avait le gel. Et l'avion a terminé en vol plané parce que les durites ont éclaté. Et donc il a réussi à se poser à Copiapo. Les mécaniciens qui étaient là n'en croyaient pas leurs yeux. Quoi. Et voilà la vallée par laquelle il est descendu, puisqu'il y a une piste qui permet de la parcourir. Voilà. Et ça se termine comme ça, ils arrivent à Copiapo. Voilà Mermoz qui, grâce à des événements comme ça, ben, est entré dans la légende. Alors Mermoz, il avait un surnom, c'était l'archange, pas moins, vous voyez. Donc voilà une illustration où il y a la symbolique de l'arc-en-ciel, puisque c'était le nom d'un des avions qu'il avait utilisé. Vous avez la constellation de la Croix du Sud qui est ici aussi. Et puis Air France, puisque Air France n'est que l'émanation de l'aéropostale, avec d'autres compagnies qui ont été également constitutives de l'entreprise Air France. Voilà. Alors Mermoz, lui, il est entré dans la légende au sud. Et voilà, c'est cet hydravion transatlantique qui faisait donc la liaison entre le continent africain et l'Amérique du Sud. Alors on va encore faire un autre voyage, un petit peu plus loin. On va aller cette fois-ci en Bolivie. Alors vous voyez que la ligne, elle est en rouge, mais qui dit ligne dit aussi ramification, donc il y en a eu un petit peu partout, et notamment sur la côte... de l'océan Pacifique et jusqu'à La Paz. Alors La Paz, donc, qui est la capitale de la Bolivie, La Paz, je ne sais pas si vous y êtes allé, c'est une capitale qui est à... Alors elle est étalée entre 3300 et 4100 mètres d'altitude. Et l'aéroport est au-dessus de la ville. Donc c'est-à-dire que là, l'aéroport de La Paz, nous sommes El Alto, le bien nommé. Nous sommes à 4000. Il fallait trouver des avions capables, notamment à l'époque, de faire la liaison. Alors pourquoi on est allé en Bolivie? Parce que par un concours de circonstances, on a réussi à monter une opération où on avait avec nous l'ambassade de France, l'Alliance française, notre association, bien sûr, la ville de Toulouse qui a été partenaire, Madame Latécoère qui nous a suivis aussi. Et nous voilà partis à La Paz pour faire une exposition sur le courrier. Alors pour le coup, France-Bolivie. Pour l'anniversaire des 80 ans de la première liaison postale aérienne entre les deux pays. Donc c'était en 2010. Voilà La Paz à quoi ça ressemble, vous voyez. Il n'y a pas que de beaux immeubles. Alors les plus riches habitent en bas, parce qu'ils respirent mieux, vous comprenez. et les plus pauvres en haut. Voilà l'avion, le POTS 25, l'avion emblématique, le seul capable d'évoluer jusqu'à 6000 mètres d'altitude. Bon, pour arriver à La Paz, c'était bien parce que les moteurs étaient quand même souffrants. Alors voilà l'éco-ball. Éco-ball, ça veut dire un presa coréo-bolivien, c'est-à-dire c'est la poste officielle bolivienne, donc un très gros bâtiment. Et là, nous allons être reçus en grande pompe. Alors oui, il y a tous les drapeaux qu'il faut. Le drapeau bolivien, c'est celui du milieu, qui est rouge, jaune et vert. Et voilà, nous sommes reçus. Alors, vous avez au milieu le personnage en noir, celui-là, hein, pas l'autre. C'était le proviseur du lycée français Alcide d'Aubigné à La Paz. Là, c'était son trésorier. Et là, il y avait Mermoz qui est sorti de son linceul dans l'Atlantique Sud pour nous saluer quand même. Voilà. Paul Vacher, qui a été un des pionniers de la ligne également. Et là, j'ai autour de moi le président Jean-Luc Gouzy, qui est le président de la ligne bleue. Alors, vous voyez qu'il est un peu fatigué parce que lui, il a fait une double embolie pulmonaire là-haut, quand même, à cause de l'altitude et une phlébite aussi. Bon, alors, il n'était pas en grande forme. Et puis, Pierre Lazuèche, qui est un aérophilatéliste de renom. Il a une des plus belles collections de France et qui est membre de l'association également. Et actuellement, c'est lui le président. Et donc, voilà. Des timbres. Alors les timbres, ben, c'est pas n'importe lesquels, c'est des timbres qui ont été faits à partir d'un de mes visuels. Et donc on a réussi à faire un événement et avoir un timbre spécifique pour cet événement, ce qui est quand même assez rare. Alors quand en France on fait un timbre pour un événement, on le tire environ 1 million d'exemplaires, voire plus. Là, le timbre n'a été tiré qu'à 5000 exemplaires. Alors je ne vous apprendrai rien en disant que plus c'est rare, plus c'est cher. Alors là, ce n'était pas qu'il était plus cher, mais disons qu'il a de la valeur par sa rareté. Donc ça, ce sont les responsables de la poste bolivienne. Voilà. Donc évidemment, prise de parole, discours, vous l'imaginez. Et les premiers coups de tambour, puisqu'on avait une enveloppe premier jour avec un timbre donc spécifique. Et donc évidemment, à tout seigneur, tout honneur, le premier à donner un coup de tambour, c'est son Excellence l'ambassadeur de France en Bolivie, qui était là. Ensuite, bon voilà, il donne le coup de tampon sur les enveloppes avec le timbre. Évidemment, devant, on a la maquette du POTS 25, etc. Tout cela est très officiel. Ensuite, nous avons Son Excellence l'ambassadeur de Suisse. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Eh bien, il avait sa légitimité, d'abord parce que nous étions dans le cadre de la semaine de la francophonie organisée par l'Alliance française. Donc la Suisse en faisait partie, bien évidemment, mais aussi parce que c'est lui qui a financé les 5000 timbres. Parce que la France ne l'a pas fait et la Bolivie, étant un pays très pauvre, ne pouvait pas s'autoriser à faire ce genre de choses. Donc la Suisse nous a aidés. Alors bon, les autorités de la Poste, évidemment, signent également, ce sont les premières enveloppes. Voilà, et mon président, bien évidemment, bon, chacun y met du sien. Et puis, Madame Granjo-Mazat, qui était la directrice de l'Alliance française, qui a été un petit peu l'instigatrice de toute cette opération. Évidemment, les poignées de main, les photos de famille. Voilà. Mais c'est vrai qu'arriver à faire un terme, voilà une planche, hein, arriver à faire un terme pour un événement comme ça, c'est quand même assez sympathique. En France, quand on veut faire ça, il faut s'y prendre au moins 2 ans à l'avance, il faut avoir l'aval des ministères, etc. Enfin, c'est très compliqué. Là, en Bolivie, ça s'est fait très très vite. Voilà. Alors le soir, on s'est retrouvés à l'Alliance française, dans une ambiance beaucoup plus détendue, vous l'allez voir, où là, il y avait donc l'exposition sur le courrier France-Bolivie, que mon président de l'époque est en train de présenter, là. Là, c'est son Excellence l'ambassadeur de France avec son épouse qui se fait expliquer les choses. Bon, la directrice de l'Alliance, bien sûr, qui s'est fendue d'un petit discours. Et puis, on a eu droit à une pièce qui racontait l'histoire des pionniers de l'aéropostale, jouée par de jeunes élèves du lycée français. Et tout ça en combinaison, évidemment, avec l'Alliance française. Et au milieu d'une exposition où il y avait essentiellement mes tableaux. Donc voilà, ça c'est les acteurs. En fait, c'est un journaliste qui accueille les premiers pilotes qui atterrissent à La Paz. Enfin, l'histoire, en gros, c'était ça. Et puis, vous savez, voilà, évidemment, ils ont salué à la fin. Et puis, il y avait une deuxième partie du spectacle qui était la chorale de l'Alliance française qui a interprété diverses chansons, notamment le répertoire français. Et on a terminé avec ce jeune Bolivien qui nous a interprété au Toulouse de Claude Nougaro. Et je peux vous dire qu'on était tous en train de pleurer parce que ça a été un moment de très grande émotion. Alors voilà le visuel qui a servi pour les enveloppes. Alors il y a eu deux enveloppes. Il y a eu l'enveloppe française, là voilà, éditée donc par la Poste française. Et puis il y a eu aussi l'enveloppe utilisée avec ce visuel, qui était l'enveloppe bolivienne. La voici. Évidemment, le thème était le même. Et donc vous voyez qu'on a tampon spécial, Potes 25, Toulouse, Arica, La Paz, et qui, donc pour l'anniversaire de cette liaison postale et aérienne. Et voilà donc l'œuvre d'origine qui a servi pour faire le timbre. Et puis un dernier hommage que je vais vous expliquer. Voilà un autre visuel. Alors là, vous reconnaissez le fameux Breguet 14, celui que Eugène Belay, ici présent, avec toute son équipe, a construit et qui vole. Hein. J'ai eu la chance de voler à bord, d'ailleurs. Je peux vous dire, ça laisse des sensations fabuleuses. Et on comprend mieux les écrits de Saint-Exupéry quand on a volé là-dedans. Et donc, j'ai fait cette illustration. Pourquoi ? Parce que en 2011, il y a eu une manifestation où on a la mairie de Toulouse, donc c'était Pierre Cohen qui était maire à l'époque, a décidé d'honorer la mémoire des pionniers et de réunir les familles des pionniers. Et sur la piste historique de Montaudran, enfin, qui n'était plus en service puisqu'elle était déjà fermée à l'époque, ils ont monté cette tente pour accueillir donc les familles des pionniers et ils m'ont demandé de la décorer, ce que j'ai fait volontiers. Je peux m'enorgueillir d'être le seul artiste à avoir exposé sur la piste des pionniers de l'aéropostale. Et donc à cette occasion, on a l'association des villes étapes de la ligne, c'est-à-dire une association qui regroupe toutes les villes étapes de la ligne qui allait donc de Toulouse jusqu'à Santiago du Chili. Alors évidemment, c'est soumis à la volonté des différentes municipalités. Et donc évidemment, il y a eu cette réunion. Alors là, vous avez Kader Arif qui était un des élus à l'époque, qui est devenu secrétaire d'État par la suite. Et voilà la séance de signature à l'hôtel de ville, donc au Capitole. Avec, vous reconnaissez Pierre Cohen qui est là, et avec les différentes délégations. Alors là, il y a le consul d'Uruguay, c'est toujours lui d'ailleurs qui est en poste. Bon, là, ça doit être pour le Sénégal, etc. Et différentes villes étaient représentées, notamment Tarfaya, Casa, etc. Voilà, séance de signature. Et évidemment, nous avons réussi à accompagner cet événement qui a été vraiment très, très sympathique. Alors, ça, c'est le dos de l'enveloppe où il y a la liste des escales de la ligne et au milieu, la reproduction d'un pli signé par Mermoz, qui a été un pli transporté dans les années 30. Et de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Donc, on a le visuel qui est en accord avec le timbre qui a été édité à un nombre réduit d'exemplaires également. Donc, ce sont là aussi des souvenirs philatéliques. Et c'est comme ça qu'on arrive, avec Air France notamment, à faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. Je vous remercie. Bon, j'espère que je n'ai pas trop débordé au niveau du timing. Ça va ? Ouais. Bon. Alors maintenant, c'est la séance des questions au gouvernement, c'est ça ?
Oui.
Bonsoir et merci beaucoup. Et la question du ravitaillement de ces avions dans des endroits aussi désertiques.
En fait, évidemment, je n'ai pas pu tout expliquer en trois quarts d'heure de temps, mais l'émission des pionniers, ça a été de déterminer ce qu'on appelait les aéroplaces, c'est-à-dire de trouver les escales qui permettaient aux avions justement d'être ravitaillés. Il faut savoir qu'au début de la ligne, bon, on a utilisé des Samson 2A2 et très vite des Breguet 14. Mais les Breguet 14, ils ont une autonomie, enfin, Eugène, c'est de l'ordre de quoi, 400 km, à peu près. Ouais, autour, voilà. Donc ça veut dire que tous les 400 km, en gros, il fallait trouver qu'il y ait une escale, donc un terrain. Sans compter les terrains pour se dérouter quand il y avait une panne et tout, enfin des terrains Non, ce n'était pas une ligne droite, ce n'était pas une partie de plaisir. Hein. Voilà, donc ça s'est fait comme ça. Donc l'idée de la TECOR, il a eu ça en 1918, il a commencé en 1918. Le premier vol qu'il a fait sur Barcelone, c'était le 25 décembre 1918. C'est pour ça que le musée dont on a parlé tout à l'heure, Gilles tout à l'heure, va ouvrir le 25 décembre 2018 pour être pile poil en accord avec le centenaire de ce premier vol. Voilà. Et donc, la TECOR, il a procédé par étapes. Donc, il a commencé par l'Espagne, puis après le continent africain. Après, il s'est intéressé à l'Amérique du Sud. Bon, entre-temps, il a revendu ses parts et c'est Marcel Bouilloux-Lafont qui a continué l'entreprise. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu parler d'aéropostale. Avant, on parlait de ligne de la TECOR. Après, ça s'est appelé l'aéropostale. C'est le nom qui est resté dans la mémoire des gens, qui est resté dans l'histoire. Hein. Mais l'aéropostale, c'est une période beaucoup plus courte. Quand on dit l'aéropostale, souvent, en fait, ça part de 1918 jusqu'à la création d'Air France. Quoi. Bon, c'est comme ça. Et donc, sur le continent américain, c'était le même système. Il y a eu une mission en 1925 qui avait pour l'ordre de mission, c'était de déterminer les escales. Quoi. Voilà. Après, petit à petit, les infrastructures se sont construites. Alors le gros défi aussi par rapport au ravitaillement, c'était la traversée de l'Atlantique Sud, parce que là, évidemment, il n'y a pas d'île au milieu. Donc il a fallu trouver un avion suffisamment important, avec suffisamment de réserves de carburant pour pouvoir faire la traversée. Et le premier avec lequel ils ont réussi à le faire, c'était, qu'on a aperçu tout à l'heure, le LAT-28 à flotteur. Ils en ont fait un hydravion. Évidemment, il était très lent et alourdi par le poids du carburant, mais il a réussi à faire la liaison quand même. Après, on a trouvé des machines plus performantes. Voilà. Non, il n'y avait pas d'escale, non, non. Après, il y avait d'autres Allemands, par exemple, eux, ils mettaient un bateau avec des catapultes. Donc, il y a un avion qui arrivait à côté du bateau, il était repêché, il faisait le plein, il était catapulté pour faire l'autre partie du voyage. Ça, c'était le système allemand. Voilà. D'autres questions? S'il n'y en a pas, hein. Ah, si.
Bonsoir. Ce n'est pas une question, c'est peut-être un témoignage ou une anecdote. Dans ma carrière, j'ai été principal du collège Henri Guillaumet à Blagnac, de 91 à 2003. Et alors, vous avez très bien raconté l'histoire de Henri Guillaumet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand il est arrivé dans la vallée, au bout de 4 nuits et 5 jours, il a été vu, trouvé, parce qu'il marchait à peine, il tombait, il se relevait. Et c'était un jeune garçon qui l'a trouvé. Ce jeune garçon, on l'a fait venir le 25 juin 2001 au collège Henri Guillaumet à Blagnac. Il avait 85 ans. Et alors j'ai eu l'honneur de l'accueillir. On l'a fait avec Bernard Keller, le maire de Blagnac, Franklin Devaux, et grâce à Airbus, donc qui a financé tout le voyage. Et je peux vous dire que c'était un grand moment d'émotion et c'est un grand souvenir dans ma carrière. Et je suis moi-même pilote et mon nom c'est Pierre Delay. Ça rappelle beaucoup Pierre Delay qui l'a cherché pendant longtemps dans la cordillère. Voilà.
Alors, je suis très content que vous soyez là, monsieur. Et on a dû se rencontrer parce que je suis passé au collège Guillaumet faire une exposition avec Amédée Rebet, qui est un autre passionné et qui lui construit des maquettes. Et on a eu un moment aussi très sympathique avec vos élèves. Alors, je ne sais plus en quelle année c'était, ça va être 2002 par là, vous deviez encore être en poste là-bas. Voilà. Oui, effectivement, Guillaumet, c'est une aventure fabuleuse. Alors, le film de Jean-Jacques Hano s'appelle Les ailes du courage. Il est en 3D. Au Futuroscope, il le passe. Moi, la première fois où je suis allé au Futuroscope, c'était pour voir ce film-là. Et à chaque fois que j'y repasse, j'ai dû y aller deux ou trois fois depuis, je vais voir ce film. Il est passé aussi au Festival des Étoiles et des Ailes à Toulouse. Alors, il n'est pas programmé cette année, le week-end prochain, là, malheureusement. Mais bon, on doit pouvoir le voir, ou peut-être à Paris aussi, à la Géode ou dans ce genre de lieu. Mais je vous engage à aller le voir parce que c'est un film absolument fabuleux.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre technique par rapport aux icônes, ouais.
Alors, vous l'avez compris, j'aime un peu l'originalité. Donc, plutôt que de faire des tableaux comme tout le monde avec de l'huile, de l'eau ou autre chose, moi, c'est avec des bouts de carton. Donc, pourquoi ? Parce que quand j'ai débuté, j'avais un petit appartement, donc il fallait que je puisse rentrer, sortir le matériel sans qu'il y ait des odeurs un petit peu dérangeantes. Voilà. Par souci d'originalité, et puis parce que c'est tout à fait simple comme technique. Donc, en fait, il faut concevoir les tableaux, bien sûr. Donc, je fais des dessins, des croquis. Ensuite, ben, je dessine dans le papier canson de la couleur qui convient. Alors, dans les cançons, il y a une cinquantaine de teintes, ça s'appelle les mi-teintes, c'est une série de papier, 160 grammes au mètre carré. Et donc je dessine, j'assemble, et puis il y a un travail de finition, avec du crayon passé au buvard ou avec des marqueurs pour les détails, qui finissent par donner ce rendu. La plupart des tableaux qui sont là, notamment les grands formats, à l'exception de celui où il y a la main de Saint-Exupéry, là ce sont les originaux. Donc il faut mettre le nez dessus pour voir les épaisseurs, voir comment c'est fait. Voilà. Bon, et puis cette technique a évolué. Au début, je faisais des choses plus simples que maintenant. Bon, évidemment, je me suis un petit peu amélioré, il valait mieux d'ailleurs. Et j'arrive à faire ça. Voilà. Est-ce que j'ai répondu ?
Est-ce qu'il y a d'autres projets par rapport à l'Amérique du Sud ? Est-ce qu'il y a d'autres projets d'expo de... Ouais.
Excellente question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Oui, alors il y a un autre projet, un projet qui va avoir lieu donc en 2018, alors qu'il était prévu pour 2015. Vous voyez, avec l'Amérique du Sud, ce n'est pas toujours simple. Là, on a eu beaucoup de chance par rapport à ce que vous avez vu. Le projet, c'était le Brevet 14, là, on en a parlé, là, vous l'avez vu, celui de Gênes. Eh bien, on devait le démonter ici, lui faire traverser l'Atlantique Sud en bateau, le remonter de l'autre côté et lui faire faire le trajet des pionniers de 1925 qui cherchaient donc les escales à mettre en place. Voilà. Donc c'était refaire ce trajet historique qui avait été fait par trois avions à l'époque, c'était la mission ROAG. Ça, je parle sous ton contrôle, Eugène. Voilà. Bon, et donc on s'était dit, 1925, 2015, ouais, c'est bien, ça tombe bien, on va le faire. Bon, c'est une grosse entreprise à mettre en place. Eugène le dirait mieux que moi, mais malheureusement au dernier moment, il a manqué un coup de tampon, il y a un petit maillon qui a sauté, et puis le projet s'est pas fait. Et puis la fenêtre de tir, il n'y était plus parce qu'il faut que l'avion soit disponible, il faut que les autorisations soient là, il faut que les pilotes soient disponibles également, etc. Bon. Et donc, ça a capoté. Et moi, de mon côté, comme je fais souvent avec Eugène, j'avais fait une enveloppe, d'ailleurs, elle est là-bas, vous la verrez, pour préparer l'événement. On savait qu'on devait exposer au lycée français en Bolivie, puisque là, on avait quelqu'un qui pouvait nous accueillir et faire un certain éclat de cette affaire. Bon. Et donc, tout ça, ça a été retardé. Et finalement, on va quand même réussir à faire quelque chose en 2018. Donc, on a le soutien de la mairie de Toulouse, déjà. On a l'Alliance française qui sera avec nous. On aura l'ambassade de France. Et on a le lycée français Jules Superviel de Montevideo qui va nous accueillir. Et donc, on va essayer de faire ce que vous avez vu à La Paz. D'ailleurs, avec le même bonhomme, parce que le monsieur que vous avez vu, qui était proviseur du lycée français à La Paz, eh bien, lui, il est maintenant proviseur du lycée Jules Superviel à Montevideo. Donc, ben oui, on prend les mêmes, on recommence et voilà. Donc, on espère faire quelque chose de bien. Alors, il se trouve que, pour répondre entièrement à la question, donc ça se fera en septembre 2018. Et après, on espère communiquer ça au niveau de Blagnac et de Toulouse avant l'ouverture du musée, donc en décembre 2018. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une manifestation sportive qui s'appelle les Jeux de l'aéropostale, qui regroupe les élèves des lycées français d'Amérique du Sud, auxquels, ça je ne le savais pas, s'est ajouté cette année, et ce sera le cas en 2018, le lycée Saint-Exupéry de Blagnac. Donc, on va pouvoir faire quelque chose de sympa si on arrive à réunir tous les éléments. Il ne faudrait pas qu'il y ait un maillon qui saute encore une fois, que ce serait vraiment dommage. Mais bon, on va croiser les doigts, on va y arriver. Et donc, il y aura une manifestation et si ça vous intéresse, vous serez informés. Laissez-moi vos coordonnées et je me ferai un plaisir de relayer l'info quand ce sera le cas. Via la pipe en vol, bien sûr, on pourra faire peut-être une conférence là-dessus aussi, avec grand plaisir.
Les aviateurs de l'époque avaient-ils des liaisons radio avec le sol ?
Peut-être, Jeanne, tu veux répondre ? Tu répondrais peut-être mieux que moi, là-dessus ? Les liaisons radio, s'il y avait des liaisons radio ? Non ?
Bon, pour l'époque, entre 1919 et 1925, la radio n'était pas utilisée dans les avions. La radio est intervenue en 26-27 quand l'aéropostale a commencé à fonctionner en Amérique du Sud. Et pour les opérations de sécurité sur la partie Afrique. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui.
Bonsoir. Vous devez savoir qu'il existe à Toulouse un festival de tango depuis 2009 qui porte le nom de Tango Postal. Et je voulais savoir si vous intervenez dedans, si vous exposez ou pas, et si ce n'est pas le cas, il va falloir le faire.
Alors c'est une excellente question. Alors je vais vous dire, j'ai essuyé les plâtres avec la Tango Postal. J'ai fait une exposition, c'était en 2009 je crois. C'est la première édition et j'ai exposé dans une galerie du centre-ville, Galerie Palladio, pour ne pas la nommer. Voilà. Et puis après, bon, il ne s'est rien passé de plus entre eux et moi. Et puis il se trouve que j'ai, d'ailleurs vous allez la voir, là, vous allez sur les tables tout à l'heure, là vous allez voir, il y a une série que j'ai appelée Alpha Tango, où il y a tous les avions les plus importants de la ligne, donc du Bray 14 jusqu'au liner d'aujourd'hui, avec des personnages qui dansent le tango. Et donc j'ai contacté M. Christian Couderette, qui est le président de cette manifestation, et qui m'a dit « Ah ben non, cette année, non, ça ne nous intéresse pas ». Bon, il m'a dit « Mais recontactez-moi pour 2018 ». Donc je l'ai fait cette année pour l'année prochaine. Là, il m'a dit « En fait, l'aéropostale, on va en parler qu'en 2019 ». Soit. Donc en 2019, j'ose espérer qu'il m'y trouvera un endroit pour mettre mes tableaux. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi la Tango Postale ne parle pas d'aéropostale avant 2019. Mais bon, ça, il doit y avoir d'autres centres d'intérêt. Je ne suis pas dans les rouages de l'organisation. Mais enfin, ça va se faire en 2019, théoriquement. J'ai échangé des mails avec lui d'ailleurs, puisque je l'ai invité à venir ici. Je ne le connais pas. Et je l'ai invité aussi au week-end prochain, mais il n'est pas là. Donc, on se rencontrera un peu plus tard. Mais bon, ça devrait se faire.
Oui, moi, je serais curieuse de savoir l'organisation autour du courrier et combien de temps, à quel rythme il partait et combien de temps ça mettait, quoi.
Je sollicite. Non, parce qu'il sera plus précis que moi.
Bon, je vais essayer de rafraîchir ma mémoire, mais au départ, enfin, les avaient le charge d'organiser le départ. L'augmentation du courrier était très. Pardon? Oui, d'accord. Bon, en fait, le challenge de la TECOR et de Bouillou Lafont était d'assurer le courrier tous les jours dans les deux sens. Performance pour l'époque. Oui, mais au début, les contrats, le contrat de la DECOER était d'assurer le trajet Toulouse-Santiago du Chili en 11 jours. Imaginant que la traversée de l'Atlantique se faisait par bateau. Et ça a été ramené à 4 jours. En 1930, 31, 32.
Oui, ce qu'il faut expliquer, c'est que on avait réussi à gagner du temps sur le continent européen et africain. On pouvait gagner du temps de l'autre côté. Le problème, c'était l'Atlantique Sud pendant une certaine période, puisqu'il n'y avait pas d'avion capable de la traverser. Donc le courrier, quand il arrivait à Saint-Louis du Sénégal, il prenait un bateau, quoi. Et donc le bateau, évidemment, pas. Alors évidemment, ça a été résolu à partir des années, du début des années 30, puisqu'on a trouvé des avions capables de le faire. L'autre problème qu'il y avait, ça c'était Mermoz qui était monté au créneau, c'est qu'il volait que 2 jours, jusqu'au début des années 30 aussi à peu près. Et donc lui, il a mis en place les vols de nuit pour gagner du temps. Bon, ce qui était quand même assez périlleux à l'époque, et les moyens de communication étant vraiment balbutiants. Voilà. Mais bon, ça a vraiment été une équipe de gens très déterminés. Aujourd'hui, on parlerait de conditions de travail, de salaire, d'horaire, de choses comme ça. Et puis, voilà, et le droit de retrait parce qu'il s'est passé je ne sais pas quoi sur la ligne. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire aujourd'hui, hein, mais on était dans une autre époque. Les gens, ils prenaient des risques qui étaient inouïs. Il faut quand même savoir que sur cette ligne de 13 000 km, il y a eu 131 morts. Voilà, un mort tous les 100 km, on disait, ça faisait un compte rond. Bon, donc il y a eu des drames comme ça, sans compter, bon, là, j'ai pas parlé de tout ça, mais tous les dangers qu'il y avait, la traversée des Pyrénées, c'était pas évident. Le désert, il y avait les morts, il y avait les dissidents, bon, il y avait ce danger-là, qui était un danger humain, d'une certaine façon. Il y avait les vents de sable. Après, l'Atlantique Sud, bon, c'est pas rien. Il y a aussi, oui, dans une des illustrations que j'ai présentées, on voyait la T28, c'est le premier hydravion qui a donc franchi l'Atlantique Sud pour une liaison commerciale. Mais il y avait le franchissement du poteau noir. Alors le poteau noir, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est une zone de perturbation qui est installée en permanence sur l'Atlantique Sud. Et elle y est toujours, on ne peut pas, voilà, et à cette époque, et forcément il fallait la traverser. Et donc c'était vraiment héroïque parce que son avion, ou son aéronef, on va dire, il volait à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, quoi. Donc il était en plein dans la zone de perturbation. Aujourd'hui, les liners, ils volent à 30 000 pieds, c'est autre chose. Mais bon, il y avait des dangers comme ça. Puis après, évidemment, il y avait dernier obstacle, la cordillère des Andes, qui n'était pas des moindres quand même. Voilà, quand on passe avec un avion d'Air France, par exemple, la cordillère des Andes, bon, on trouve ça magnifique, mais bon, on est bien au-dessus, ça va, on risque rien. Mais et d'ailleurs, la ligne passe au même endroit, m'a-t-on dit, à la verticale, à quelque chose de près du col du Christ Rédempteur que vous avez vu tout à l'heure, voilà, mais beaucoup plus haut, heureusement. Les étoiles, la boussole. Ouais, non, mais. Tu veux porter une précision, Eugène ?
Non, ce serait trop compliqué à évoquer toute la perspective que couvre le vol de nuit. Mais les premiers vols de nuit, d'ailleurs, tout à l'heure, Jean-Pierre parlait du vol de nuit qui a permis de raccourcir le trajet. Le premier vol de nuit a été réalisé en Amérique du Sud avec un courrier à bord. Et c'est Mermoz qui a voulu donner l'exemple. Il est parti de nuit, il est parti de Rio de Janeiro à Buenos Aires. L'objectif était de voler la nuit, mais il ne fallait pas qu'il y ait de perturbations. Donc en fait, c'était un vol de nuit au clair de lune, si je puis dire, si j'exagère. Le deuxième critère, il fallait trouver le terrain. Donc on aménageait sur des terrains d'escale des fûts de fioul que l'on allumait en triangle. Donc c'était un triangle qui précisait où il fallait atterrir. Et il repartait dès le plein refait. Donc c'était une véritable aventure que l'on imagine très 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 difficilement. Donc le vol de nuit, lui, sur la partie française, parlant de l'aéropostale, partant de Toulouse jusqu'à Perpignan, il y avait ce qu'on appelle les phares de l'aéropostale. Vous avez, par exemple, à Castelnaudary, il y en a un. À Montferrand, il y en a un autre. Vous pouvez le visiter, d'ailleurs, c'est un des seuls survivants en état. Il y en a un autre à Ramonville, qui est au milieu des villas. C'était le garde champêtre, c'était l'instituteur du coin qui recevait un coup de fil du chef d'aéroplace de départ de l'avion qui disait « Bon, ben, tel avion va passer dans 3 heures. » Et donc le gardien du phare allait allumer le phare pour permettre aux avions volant la nuit d'être repérer leur parcours. Voilà, le vol de nuit n'était pas un amusement, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Non, les montagnes, encore une autre particularité de l'aéropostale, compte tenu de la capacité des avions à voler haut ou à ne pas avoir de moyens de radionavigation, suivez la côte. Pour ce qui était de Toulouse à Perpignan, il suivait le canal du Midi. Pour ce qui était de l'Afrique, il suivait également la côte. C'est la raison pour laquelle vous voyez toute la partie aéropostale jusqu'à Buenos Aires était la côte qui était en fait le fil conducteur. Donc il volait 2 jours. Avec le mauvais temps, certes, mais la nuit, il ne pouvait pas voler dans le mauvais temps. Ça pouvait arriver. Et là, tout à l'heure, Jean-Pierre disait, il y a eu 121 morts sur le circuit. Hein. C'est pas simple.
Quel était à peu près le nombre de ces pionniers? Combien ils étaient à peu près? Ah non, parce que 121 pour mourir déjà. Sinon, dans une période normale, combien il y avait de pilotes qui fonctionnaient en même temps? En roulement, oui.
Ce que je n'ai pas dit, c'est que la TECOR, il était originaire de Bagnères-de-Bigorre. Il s'est installé en Toulouse en 1917. C'était un industriel et donc il s'est mis à construire des avions sous licence avant de créer son propre bureau d'études. Donc c'est comme ça qu'il a été amené à construire des Samson, des Breguet 14. Mais l'idée qu'il a eue, c'était de transformer le Breguet 14, qui est un bombardier, qui est sorti en 1917, d'en faire un avion postal, c'est-à-dire retirer les équipements militaires et la charge offensive la remplacer par le courrier. Voilà. Il a commencé comme ça. Après, créant son propre bureau d'études, il a construit des avions directement prévus pour... Mais au début, c'était une adaptation. Et comme il a senti que la guerre allait se terminer et qu'il allait y avoir tout un tas d'avions inutiles, ça a été sa grande idée d'utiliser ce potentiel industriel, ces avions, ces machines, pour transporter le courrier, pour passer vraiment à une autre époque. On arrête de faire la guerre et on passe à des choses plus intéressantes. Et le courrier, c'était important. Imaginez qu'aujourd'hui, on avait un téléphone qui marcherait beaucoup moins, que vous n'avez plus les mails, etc. Vous n'avez pas la télé, vous n'avez pas toutes ces choses-là, vous n'avez pas Internet. Et le courrier revêt alors une importance beaucoup plus importante, beaucoup plus grande. C'est évident. Il y a eu d'autres essais quand même. Et les Américains l'ont fait. Il y a eu d'autres lignes. Mais voilà. Mais la ligne la plus importante, la plus longue, la plus ambitieuse, est celle qui a duré. Voilà. Et puis elle s'est affrontée aussi à la concurrence allemande, entre autres, parce qu'il a fallu conquérir les marchés. Il a fallu convaincre les gouvernements, que ce soit en Espagne ou sur le continent américain, surtout. Voilà. Ah oui, la TCOR, lui, c'était du business. Et bon, même s'il y avait des mots d'amour qui étaient transportés, certainement, il y avait surtout des lettres d'affaires. Ça, on peut l'imaginer. Et oui. D'ailleurs, Bouillou Lafond, qui a repris son affaire, lui, c'était un grand industriel implanté en Amérique du Sud. Bon, il s'y est ruiné, certes, mais enfin, au départ, c'était pas l'objectif, quand même. Là, je n'aurais pas de précision là-dessus. Bon, il y avait une surtaxe, évidemment. Hein. Mais bon, on gagnait tellement en temps. Bon, après, ça valait le coup quand même. Ouais. Mais bon, je ne sais pas. Tu veux porter une précision là-dessus, Eugène? Oui, c'était surtaxé, oui. Oui. Effectivement, quand le gouvernement français a retiré ses aides, ça a mis l'aéropostale en péril. Hein. Ça, c'est clair. On l'a vu. Mais enfin, là, il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Je vous renvoie à la littérature abondante. D'ailleurs, si vous allez au Festival des Étoiles et des Ailes, donc à la Cité de l'Espace le week-end prochain, vous trouverez certainement des écrivains qui vous parleront de ces sujets-là. Bon, je ne sais pas. On peut peut-être passer à la troisième phase, là.
Merci, Jean-Pierre. Hein, une dernière question.
Juste une dernière question, je voulais savoir, est-ce qu'en général un pilote et un mécanicien peuvent former entre guillemets une sorte de couple, c'est-à-dire est-ce que souvent ils étaient toujours les deux mêmes ensemble ou est-ce que ça tournait?
Pas toujours, effectivement ça pouvait tourner, mais il y avait des couples comme il y a des cordées célèbres, je pense que c'est à ça aussi que tu fais référence, notamment là pour Mermoz et Colneau, bon, ils étaient indissociables. Hein. Bon, il a fait bon, l'aventure que j'ai relatée là brièvement et bien d'autres. Ils étaient vraiment comme les deux doigts de la main, oui, ça c'est clair. Il y avait des équipes comme ça qui étaient solides. Après, il y avait une solidarité, il y avait vraiment l'amour du travail bien fait, qu'on soit mécanicien ou pilote, voilà. Des valeurs qu'on a du mal à avoir un peu partout aujourd'hui et maintenant. Ce n'est pas toujours le cas. Moi, je n'ai pas entendu parler de ça, non. Non. Après, bon, Mermoz est l'un des plus connus. Alors, il a ses détracteurs et puis il a ses soutiens. On va dire que, bon, il y en avait d'autres qui étaient connus, Saint-Exupéry. Alors Saint-Exupéry, lui, on lui dit que c'était un mauvais pilote parce qu'il a eu moins de chance que les autres. Bon, il était un peu rêveur aussi, mais enfin, il a fait des choses extraordinaires également. Donc, je veux dire, c'est toutes ces histoires-là, c'est très complexe. Bon, il ne faut pas enlever à Mermoz ce qu'il a fait. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y avait toute une équipe, qu'il y en avait d'autres qui ont fait des exploits tout aussi retentissants que lui. Mais bon, voilà. Après, l'histoire retient certains noms et oublie les autres.
Bien, merci Jean-Pierre. Et maintenant, effectivement, la troisième partie. Vous êtes tous conviés au repas partagé qui vous attend à côté ou boire quelque chose et continuer les discussions, les échanges. Merci beaucoup.